RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal, c'est avec Marion Cazanov.
Ahmed Al-Shara en Arabie Saoudite aujourd'hui. Premier déplacement du président syrien par intérim qui continue ses rencontres avec des dirigeants étrangers pour asseoir sa légitimité. Donald Trump lance sa guerre commerciale. Il valide les droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine, qui ont aussi répliqué. Les pays européens devraient aussi bientôt régler des taxes douanières. En RDC, le Sud Kivu sous la menace du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Et puis plus de 1000 jours de détention en Iran pour les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Un rassemblement était organisé hier dans la capitale. Premier déplacement international pour Ahmed Al-Shara. Le nouveau président intérimaire nommé cette semaine est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les nouvelles autorités syriennes observées de près par l'OSDH, l'ONG s'inquiète de la mort d'au moins 10 personnes dans les prisons du nouveau pouvoir. Elle déplore aussi des cas de torture, tout cela dans la région de Homs. Des milliers de partisans présumés de l'ancien régime ont été arrêtés dans cette province du centre de la Syrie. À Beyrouth, Paul Khalifeh.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, rapporte la mort sous la torture de plusieurs détenus arrêtés ces dernières semaines par les services de sécurité des nouvelles autorités en Syrie. L'ONG indique samedi qu'un homme de 23 ans, Loay Tayyara, a été retrouvé mort 24 heures après son arrestation dans la ville de Homs. Il aurait été mortellement frappé à la tête. Le jeune homme a été arrêté car sa mère appartenait au parti Baas au pouvoir en Syrie pendant 60 ans et aujourd'hui dissous. L'OSDH a publié les noms de plusieurs autres personnes mortes sous la torture ces quatre derniers jours dans cette province centrale où les rafles contre des partisans présumés de l'ancien régime donnent lieu à des exactions et des exécutions extrajudiciaires. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman, évoque une situation chaotique à Homs. Il a exhorté le président de la transition en Syrie, Ahmad al-Shara, d'ordonner la libération de milliers de détenus qui n'ont pas du sang sur les mains, dont des officiers et des soldats de l'ancienne armée qui effectuaient leur service militaire obligatoire. Parmi les détenus figurent d'anciens militaires arrêtés après avoir remis leurs armes et régularisé leur situation, comme l'exigent les nouvelles autorités syriennes. Paul Khalifeh, Beyrouth, RFI.
La Syrie où, malgré les efforts d'unité prônés par les nouvelles autorités, les combats se poursuivent dans le nord entre des factions pro-kurdes et pro-turques. Selon l'OSDH, 19 combattants sont morts hier. À noter aussi toujours en Syrie cette attaque dans le centre du pays, dans le village d'Arzé. 10 morts tués par balles, des hommes armés visaient des membres de la communauté alaouite, minorité dont est issu le président déchu Bachar al-Assad. La trêve entre Israël et le Hamas entre dans sa troisième semaine. Les négociations pour la seconde phase de cette trêve commence demain. Négociations indirectes entre les deux parties. Le Premier ministre israélien se rend à Washington. Benjamin Netanyahou rencontrera demain l'émissaire Steve Witkoff avant d'être reçu par le président américain Donald Trump. Hier, la journée a été marquée par de nouvelles libérations d'otages israéliens et de détenus palestiniens. Également par la réouverture à Gaza du point de passage de Rafah, où des blessés palestiniens ont été évacués vers l'Égypte. La guerre commerciale est lancée. Comme promis le président Donald Trump, le président américain valide des droits de douane, taxe de 25% sur les importations venues du Mexique et du Canada, taxe de 10% pour la Chine. Ces droits devraient entrer en vigueur mardi après-demain au plus tôt. Et aussitôt, les pays concernés ont répondu. Ils affirment qu'ils vont faire de même. Donald Trump assure imposer ses droits de douane pour lutter contre le trafic de fentanyl venu du Mexique et également contre les arrivées illégales de migrants. Et la prochaine cible de Washington pourrait être l'Union européenne, Karine Auton.
Donald Trump est mécontent de la balance commerciale des produits avec l'UE qui est en défaveur des États-Unis et il pourrait se venger sur certains secteurs qui dépendent de leurs clients américains pour une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Prenez les viticulteurs français. Les États-Unis, c'est 22% des vins et spiritueux français à l'export, par exemple, et la filière a déjà eu un avant-goût de ce qui pourrait se passer lorsque Donald Trump avait mis en place une surtaxe de 25% sur le vin français et espagnol, pas italien, pendant 2 ans, suite au conflit entre entre Airbus et Boeing. Les ventes avaient alors baissé de 30% jusque quand les droits de douane avaient été annulés par Joe Biden. Les médicaments français, irlandais, belges et allemands pourraient en souffrir aussi. Et puis Donald Trump a déjà laissé entendre que les Européens n'achetaient pas assez d'automobiles américaines. Il pourrait prendre des mesures de rétorsion contre les voitures allemandes et italiennes. Enfin, l'huile d'olive espagnole avait déjà été dans son collimateur au cours du premier mandat et elle est au cœur d'une bataille juridique à l'OMC. Il n'y a pas de raison que Donald Trump l'épargne cette fois-ci. Karine Hotton, New York, RFI.
Les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur, a prévenu Pékin. La Chine compte aussi contester ses droits de douane devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La présidente mexicaine, elle, Claudia Sheinbaum, dénonce aussi une calomnie de son homologue américain. Ce dernier a déclaré que le gouvernement mexicain avait des liens avec le narcotrafic. Les États-Unis qui ont mené aussi des frappes aériennes contre l'État islamique en Somalie. Ces frappes ont tué des figures clés du groupe islamiste. C'est ce qu'affirme ce matin le gouvernement de la région semi-autonome du Puntland. Dans l'est de la RDC, la menace du M23 au sud Kivu. Les combats font rage dans la province entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. Ce qui a conduit des milliers de personnes à Bukavu à s'enrôler dans l'armée alors que le Burundi, lui, craint une guerre régionale. Évariste Ndayishimiye, président burundais, a accusé le Rwanda de préparer quelque chose contre le Burundi en soulignant que son pays n'allait pas se laisser faire. Aymar Nyenyezi Bisoka est chercheur spécialiste des Grands Lacs à l'université de Mons en Belgique. Pour lui, cette crainte du président burundais est plus que fondée.
Je pense qu'il faut prendre très au sérieux l'appel du président burundais. C'est quelqu'un qui a été au maquis, qui connaît très bien l'est de la RDC de par l'action militaire de son parti au pouvoir et quelqu'un qui est très impliqué dans tout ce processus via la RDC. Son message est clair, c'est que c'est un conflit régional qui va opposer différents groupes. D'un côté, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. D'autres de l'autre côté, en tout cas au niveau de l'EAC, un bloc RDC, Burundi et Tanzanie. Et donc, il appelle vraiment à prendre des initiatives fortes pour éviter l'embrasement de la région, surtout qu'il y a quand même des sérieuses implications sécuritaires, à la fois pour le Burundi et pour l'Ouganda, sans parler du Rwanda et de la RDC.
Le chercheur Aymar Nyenyezi Bisoka, joint par Florence Maurice. Toute l'actualité africaine à retrouver à toute heure sur notre site internet. Également, dans un peu plus de 20 minutes, on reparlera de la situation en RDC dans un nouveau journal d'actualité africaine. RFI 9h07 à Paris. Cela fait 1001 jours que Cécile Kohler et Jacques Paris sont détenus en Iran. Ces deux enseignants ont été arrêtés fin 2022 lors d'un voyage touristique. Ils sont accusés d'espionnage par l'Iran. Un autre Français, Olivier Grondeau, est lui emprisonné dans le pays depuis plus de 2 ans. Hier, plus de 200 personnes se sont rassemblées sur la place du Panthéon à Paris pour réclamer leur libération, mais aussi pour que l'État français soit plus impliqué. Reportage d'Elisa Fellier.
Messieurs Macron et Pézéchkian, veuillez, je vous en prie, trouver un accord et libérer nos enfants, Cécile, Jacques et Olivier. Agissez, s'il vous plaît.
Ça fait maintenant 1000 jours que les parents de Cécile se battent pour la libération de leur fille. Sa sœur, Noémie, se sent de plus en plus démunie par la situation.
C'est vrai que nous, on avance depuis 1000 jours dans un flou complet, sans information, en devant faire confiance en fait à ce que nous disent les autorités françaises, à savoir qu'elles sont pleinement mobilisées. C'est pas facile tous les jours.
Vendredi, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux familles des otages et a annoncé qu'il allait prochainement les recevoir.
Je sais que c'est particulièrement important pour mes parents notamment, parce que voilà, c'est aussi un gage de prise au sérieux de la situation de nos proches.
Une situation également considérée importante au Parlement européen. Chloé Ridel est députée européenne et porte-parole du Parti Socialiste.
J'ai porté il y a 10 jours une résolution adoptée à l'unanimité qui demande la libération immédiate de Cécile, Jacques et Olivier, qui dénoncent fermement leurs conditions de détention inhumaines et qui appellent les pays européens à se coordonner face à la pratique du régime islamique iranien.
Les familles espèrent des libérations rapides, d'autant plus que les conditions de détention ont des conséquences très graves sur la santé des otages.
Le reportage d'Elisa Fellier à Paris. La France où le Premier ministre est prêt à risquer la censure. François Bayrou compte dégainer le 49-3 demain à l'Assemblée nationale pour faire passer en force le budget, le projet de loi sur le budget et donc s'éviter de passer par le vote des députés. Il l'a annoncé dans le journal La Tribune dimanche. Une motion de censure sera aussitôt déposée après l'utilisation de ce 49-3. François Bayrou se dit toutefois confiant. La motion de censure pourrait ne pas être votée par l'extrême droite et les socialistes pourraient eux aussi s'abstenir. Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. À suivre Afrique, mémoire d'un continent.